Bonsoir Marion, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous habitez je crois en Suisse si je ne me trompe, mais ça c'est pas le plus important, hein. Vous êtes journaliste et vous êtes auteur chez Slatkin de Ressusciter. Et quand je relis cette phrase de Calimero qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens », je pense que la famille dont vous nous parlez dans votre livre Ressuscité a dû regarder en arrière plusieurs fois, elle qui a migré de son Afghanistan, elle ne pouvait pas faire autrement, c'était une question de survie, vers l'Iran, puis ensuite retour en Afghanistan, puis ensuite vers l'Europe, pour arriver en Allemagne en ayant perdu, enfin c'est en tout cas ce qu'elle pensait, un de ses enfants, Madi, un petit garçon qui, selon l'histoire que vous nous racontez aujourd'hui, a été retrouvé. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire l'histoire de cette famille, une histoire magnifique que nous découvrons à travers les yeux et la bouche de la maman?
Oui, alors tout à fait, Jean-Marc, je vous réponds depuis mon domicile genevois. Écoutez, je suis tombée sur une brève de la BBC qui m'a complètement déroutée, puisqu'en quelques lignes, la BBC tâchait de décrire le drame indicible qu'avait vécu une mère. Alors la brève, c'était déjà quand la maman Choukriyeh, cette mère afghane, retrouvait son fils de 9 ans qu'elle avait égaré, entre guillemets, sur la route migratoire. Et c'est cette brève simple de quelques lignes qui m'a interpellée au point où je suis partie rechercher cette famille désormais installée dans le nord de l'Allemagne pour qu'ils me racontent leur histoire au travers de la voix de l'interprète dont je me suis adjoint les services pour mieux comprendre et de ce petit garçon avec lequel j'ai pu m'entretenir.
Vous avez dû vivre des moments d'émotion intense, parce que c'est pas toujours évident pour une famille comme celle que vous suivez et dont vous nous racontez l'histoire, de raconter d'abord cette perte d'un enfant finalement retrouvé, mais aussi ce parcours migratoire qui est empreint de souffrance, de douleur, de découragement, d'anxiolytique, hein, faut le dire, pour la maman et pour les filles et pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette rencontre, la première fois?
Et en effet, à la fois, ce récit est porteur d'espoir, voire d'espérance, puisque cette mère aussi, la mère et la narratrice, donc, aussi entre le désespoir et puis elle reprend régulièrement courage, parce qu'effectivement, pendant 2 ans, elle ne sait pas ce qu'il est advenu de cet enfant, s'il est mort noyé dans l'embarcation leur embarcation a chaviré, mais elle a chaviré assez proche de la rive pour qu'il puisse faire marche arrière. Simplement, cet enfant est introuvable. Et voilà, elle est dans le doute et effectivement, elle oscille entre espoir et désespoir.
Dans l'histoire que vous nous racontez, vous reprenez l'histoire depuis le début, depuis qu'elle, la maman, est petite. Pourquoi l'avez-vous fait ainsi ?
Tout à fait, parce qu'il m'a semblé absolument primordial de comprendre les ressorts qui poussent, qui contraignent cette mère, ce père et leurs 5 enfants à prendre la route de l'exil qu'ils ne voulaient pas prendre. C'est une famille afghane qui vivait paisiblement depuis le début de leur mariage en Iran, donc dans une société somme toute moderne, dans laquelle leur fille avait pu être scolarisée, ce qui n'est pas le cas en Afghanistan, ou en tout cas très difficilement, mais pas d'emblée, disons, et qui se voit au bout de 18 ans, qui voit leur permis de séjour en Iran non renouvelé. Et là, ils se voient donc contraints de rentrer en Afghanistan. Leurs filles qui ont 14 et 16 ans, leur fille aînée, mettent une burqa pour la première fois en arrivant dans le pays d'origine de leurs parents. Et donc tout ce contexte géopolitique géopolitique, pardon, afghan, dont aujourd'hui on reparle, eh bien, est en toile de fond assez présente, hein, dans ce récit. Et donc, c'est une famille qui doit se remettre en route depuis l'Afghanistan, où ils n'auront passé finalement que 9 mois. 9 mois durant lesquels les filles n'ont pas pu être scolarisées. La mère n'a pas pu revoir ses sœurs et ses frères parce qu'elle ne peut pas partir, elle ne peut pas sortir seule, non chaperonnée. Et voilà pourquoi je reviens dès le départ, parce que je pense que c'était primordial de comprendre le cheminement contraint et forcé de cette famille qui n'avait absolument aucune intention de vivre un jour en Europe.
Alors sur le chemin, et dans le livre on le voit bien, il y a, comment dire, beaucoup de racisme, de rejet, d'exclusion, de violence, mais il y a aussi quelques personnes, dont un que vous avez pu rencontrer, Rani, qui va faire basculer le destin de la famille. Et ça, c'est important de le souligner aussi, hein. C'était quelqu'un que vous avez rencontré, et en quoi est-ce qu'il vous a particulièrement touché ?
Alors, Rani Jazi est un Libano-Allemand qui, à l'époque, en 2016, dans la grosse vague migratoire, principalement d'origine afghane, qui a été accueillie en Allemagne suite à l'appel au discours vibrant d'Angela Merkel, « Wir schaffen das, on va y arriver », Rani Jazi, à cette époque, est un bénévole qui chapeaute le camp de la Croix-Rouge d'une petite bourgade du nord de l'Allemagne, Ilsen, dans laquelle arrive la famille protagoniste de mon récit, qui arrive sans Mahdi, le petit qui est perdu sur la route migratoire. Et cet homme, en fait, va s'interroger de voir tant de souffrance chez les enfants. C'est-à-dire que les sœurs, qui ont l'air en santé, en bonne santé relative, ne font que pleurer du soir au matin. Et même s'il a l'habitude de voir de la souffrance que porte la plupart des migrants, bien sûr, cette tristesse infinie l'interpelle au point qu'il il s'intéresse en fait à l'histoire de la famille. Il comprend qu'ils ont perdu un enfant en route et il commence à faire ses propres recherches dans son coin. Voilà, et c'est un homme qui aujourd'hui travaille d'ailleurs dans la banlieue zurichoise. C'est assez drôle les liens que cette histoire vraie, mais que j'ai romancée néanmoins, les liens qu'elle a avec la Suisse, hein, puisque l'histoire se termine aussi en Turgovie. Et donc Rani Jazi a complètement changé la vie de cette famille, puisqu'il a fini par retrouver le petit sain et sauf à Kreuzlingen, en Turgovie, dans un foyer où il avait atterri. Mais au bout de plusieurs mois de recherche, et lui aussi, hein, au bout de plusieurs mois d'insomnie.
Il y a ce moment incroyable où il débarque dans la famille, il s'installe sur le canapé, il refuse de manger parce que la famille avait préparé quelque chose à manger et voulait partager, et il va annoncer tout ça à la famille. Ça, c'est un moment. Quand elle vous a raconté ça, la maman, comment était-elle ?
Elle avait les larmes qui lui montaient aux yeux de se remémorer ce moment où elle a su effectivement que son fils était toujours vivant. L'Allemagne, la Suisse, pardon, lui paraissait à deux pas depuis donc le nord de l'Allemagne où elle était requérante d'asile. Mais en fait, ça a duré encore des mois après qu'on ait identifié, donc grâce à Rani Jazi, après que le petit ait été identifié. Évidemment, c'est très délicat. Les autorités suisses voulaient être sûre et certaine, bien sûr, qu'il n'y avait pas d'erreur et qu'on envoyait bien l'enfant vers ses géniteurs. Alors, il y a eu énormément d'émotions, mais après, il y a eu aussi beaucoup d'attentes et douloureuses encore.
Dites-moi, dans l'histoire que vous nous racontez, il y a plein de choses passionnantes, hein, le rôle du père, le rôle de la mère, les filles, en particulier la plus grande qui a une connaissance incroyable. À un moment donné dans le livre, vous racontez, elle avoue même connaître la Suisse alors qu'elle l'a juste étudié à l'école avec les langues qu'on parle dans notre pays. Il y a des choses qui vous ont bousculé sur le vécu de cette famille qui doit ressembler à beaucoup de vécus de familles qui ont dû prendre la route de la migration. Marion.
Des choses qui m'ont bousculée, alors émotionnellement, oui. Vous voulez dire culturellement?
Oui, des choses qui vous ont étonné, bousculé, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Finalement, c'est une culture qu'on connaît moins bien que d'autres, hein, même si vous étiez bien accompagné, si je me souviens bien, par André Scheffer, qui est quand même un roman amoureux de l'Afghanistan, donc il connaissait bien, mais j'imagine qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu étonné.
Alors, tout à fait. Disons que je connais le béaba des mœurs musulmanes. Je veux dire, je savais qu'il fallait que j'enlève mes chaussures au seuil de l'entrée, mais je dois dire que ça s'arrêtait presque à peu près là. Je savais qu'il faut être très délicat, plutôt s'adresser au père, etc. Je ne pouvais pas, avec mon interprète, rester seule dans la salle avec sa femme, par exemple. Mais mon interprète, effectivement, qui est vaudois, André Schaeffer, m'a vraiment plus que décodé, a été plus qu'un interprète. Donc, il m'a vraiment aidée. S'il y a quelque chose que je peux dire, c'est que ce qui m'a surprise, c'est que je m'attendais, il me manque dans mon investigation, si vous voulez, il m'a manqué certaines réponses. Je n'ai jamais su par quelle frontière était arrivé Mahdi, ni comment vraiment il était arrivé, je veux dire par quel moyen de transport. Et j'ai naïvement cru qu'en rencontrant cet enfant qui avait alors 9 ans, je l'ai rencontré, il en avait plutôt 11, il allait pouvoir me répondre à des questions d'ordre pratique. Je l'ai surestimé ou j'ai été très naïve parce que je m'adressais à un enfant qui était perdu en Europe et en fait il n'a fait que me dire je ne sais pas, je faisais que pleurer.
C'est fort, c'est très fort.
Ça m'a vraiment bousculée parce que je m'en suis voulu à moi-même d'avoir naïvement cru qu'il allait me donner des réponses, par quelle douane tu arrivais, à quel endroit étais-tu en foyer, etc. C'est des réponses qu'il n'était évidemment pas capable de me donner, non seulement parce que ce n'était qu'un enfant, mais qu'en plus, émotionnellement, il était décousu.
Une dernière question, puisque c'est un peu le thème de cette semaine, hein, comment faire face aux empreintes de la vie? Est-ce que vous pensez que la famille pourra faire face à ces empreintes qui sont des blessures très fortes, des cicatrices très profondes, et puis bien sûr aussi les retrouvailles, mais avec tout ce que ça représentait?
Je pense, on ne sort jamais indemne, évidemment, de tant de bouleversements émotionnels. Je pense néanmoins qu'aujourd'hui, leurs demandes d'asile ayant été acceptées, ils sont installés tous au nord de l'Allemagne, avec un sursis pour les deux tantes avec lesquelles ils voyageaient, les deux sœurs de monsieur, dont la demande d'asile a d'abord été refusée, et puis il y a un recours qui est en cours. Mais enfin, je pense que comme leur demande d'asile est acceptée pour 7 des 9 d'entre eux, et que les filles aînées sont très appliquées, je pense que il y a l'espoir de l'école publique allemande, il y a l'espoir du contexte de sécurité dans lequel ils se trouvent désormais, et puis il y a une volonté, une détermination de vouloir s'intégrer et de vouloir donner le meilleur à leurs enfants.
Merci beaucoup Marion. Emmolot est venue nous parler de votre livre Ressuscité aux éditions Slatkin, à découvrir, à lire absolument. À travers votre livre, on découvre beaucoup de choses. Merci infiniment d'être venu ce soir.
Merci Jean-Marc.
C'est une très bonne nuit. À bientôt.
Bonne nuit, au revoir.